Martine, as-tu quelque chose à dire? As-tu quelque chose pour ta défense?
Alors, je voulais dire simplement que j'ai beaucoup, beaucoup de feuilles. Malheureusement, je ne pourrai pas faire tout le monde. Sinon, ce sera une ligne pour chacun, ce serait dommage. Donc, je vous demanderai par contre de venir récupérer vos feuilles, quand même, même si vous n'avez pas eu de message. Et si vous voulez, vous pourrez m'appeler pour un rendez-vous téléphonique, éventuellement. Ou demain, on est ici demain.
Alors, vous voyez que Martine est très enthousiaste. Juste pour que vous fassiez une idée, le travail de Martine consiste à installer autour d'elle une barrière, une bulle, dans laquelle elle se protège complètement et se met à l'abri de tout ce que je peux dire. Là, elle a cette capacité qui n'est pas très fréquente, à vrai dire, chez les médiums psychographes, de pouvoir travailler en même temps que quelqu'un d'autre parle. Hein. C'est dans ce sens que j'aime beaucoup Martine, aussi parce qu'elle a été un ancien mannequin. J'aime toutes ses qualités. Bien. Nous prions Dieu, notre Père créateur, Mère créatrice de toutes les choses et de tous les êtres. En Dieu, nous prions le principe féminin et masculin de l'univers. Et à Dieu, nous prions Dieu afin qu'il puisse être présent avec nous le temps de la séance qui durera jusqu'à environ 18 heures. Et nous te prions, Dieu, de bien vouloir nous assister, nous accompagner, offrir au public les messages qui lui seront utiles et nécessaires pour poursuivre son existence aussi sereinement et paisiblement que possible. C'est avec humilité, amour, abnégation, avec sérieux aussi, que nous te demandons par ailleurs de bien vouloir permettre à tous nos amis d'au-delà, parmi lesquels figurent les purs esprits, les esprits supérieurs, les guides spirituellement gardiens et bons esprits, parmi lesquels figurent, nous en sommes convaincus, nombre de vos défunts. Et nous vous demandons, amis de l'au-delà, de bien vouloir vous rendre disponible pour vos proches qui sont dans la salle et leur attribuer, leur transmettre les messages qui sauront les apaiser, les conseiller, les orienter, les enseigner. Et pour cela, nous vous demandons deux choses qui sont importantes pour nous. D'abord, nous avons besoin que vous puissiez écarter de nous tout esprit, entité, énergie qui désirerait nous gêner dans notre travail. Et nous disons à ces esprits, à ces énergies, à ces entités qu'elles peuvent s'éloigner de nous. Mais pour autant, nous leur proposons à une certaine distance de s'arrêter, de se retourner calmement, silencieusement, de nous regarder, de nous écouter travailler. Nous estimons que ce qui sera dit et fait ici pourra être profitable à leur évolution morale et spirituelle. Enfin, amis de l'au-delà, Martine et moi, nous vous offrons nos facultés médiumniques. Toutefois, si celle-ci ne devait pas vous convenir pour toutes sortes de raisons, nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir nous aider, à nous corriger, à nous améliorer, puisque nous souhaitons être pour vous, ainsi que pour le public, des outils efficaces, fiables, des outils sérieux. Merci à toutes et à tous. La séance commence. Il ne s'agit pas de drogue. Il s'agit de thé au miel. C'est utile pour ma voix. Ça s'achète à Carrefour. Et je n'en fais pas. Je ne suis pas payé pour faire la publicité. Hein. Pendant quelques minutes, je viens vous observer. Ce n'est pas vous que je regarde. Ne soyez pas gênés parce que je m'attarde sur vous. Je ne vous regarde pas. Je regarde au-dessus de vous, sur le côté, au niveau du ventre, au niveau des jambes et des pieds pour les premiers rangs. Je ne fais pas attention aux moumoutes. Je ne fais pas attention au mauvais maquillage. Je ne fais pas attention si vous êtes beau ou moche. Je vous regarde, en quelque sorte, je regarde autour de vous et je suis à la recherche du signal, du message que vos amis veulent vous adresser. Alors, il y a souvent autour de vous des choses, mais j'attends vraiment que le signal prenne une apparence. Très souvent, ce sont des nuées de couleurs qui sont à côté de vous. Et dès lors que ces nuées arrivent à se condenser en une image, alors je m'arrête dessus, je prends votre prénom et puis je reviendrai vers vous un peu plus tard. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne vois pas grand chose. Je vais recommencer. Quel est votre prénom? Vous verrez, les symboles sont très simples. Quel est votre prénom? Vous avez perdu un enfant, un garçon ou pas? Oui, il est derrière vous. Quel est son prénom? Il n'avait pas de prénom, il est mort à la naissance. Il y a combien de temps?
30 ans.
Oui, d'accord. Quel est votre prénom?
Vous voulez qu'on en parle ou pas?
Non, on n'en parle pas. Votre prénom, madame? Oui. Montrez-moi votre main comme ça. votre prénom au fond. Vous êtes ensemble, la dame? Oui, vous êtes ensemble. La même famille? Quel est votre prénom? Quels sont vos prénoms? Et vous? Vous êtes guérisseur?
Oui.
Quel est votre prénom?
France.
Quel est votre nom?
Lucien.
Vous connaissez toutes les deux? Quel est ton prénom, Jacqueline? Madame Rousse, au fond. Oui. Alors peut-être que je ne dirai pas tout. Hein. Comment s'appelait le bébé? Il avait été nommé ou pas?
Il n'avait pas de prénom.
D'accord. Il est mort il y a une trentaine d'années? C'est bien, c'est courageux. Madame avec le pull vert, quel est votre prénom? Bien, essayons. Et je m'accorde donc jusqu'à environ 17h, soit à peu près 40 minutes. Et à l'issue de cette période, je passerai aux photographies, hein, puisque il faut bien travailler sur les photographies. Où sont ? La première personne va essuyer les plâtres. Donc, la remercie. Je suis un peu comme une locomotive et j'ai besoin de me lancer. Je me sentirai vraiment à l'aise après cette première période. Mireille, avez-vous le sentiment dans votre existence que vous êtes sans arrêt en train de jouer avec votre vie, de jouer péniblement à la vie qui consiste pour vous à lancer des projets, mais à constater que beaucoup d'entre eux n'aboutissent pas, comme si dans votre vie vous deviez faire des efforts pour avancer. Je vous dis ça parce que il y avait au-dessus de vous un échiquier, et je me suis dit que dans la position du joueur, vous êtes quelqu'un qui devait faire sans arrêt des efforts pour avancer, des efforts pour vous améliorer, pour comprendre les choses, comme si au fond rien ne vous était donné. Comme si vous deviez sans arrêt aller aux choses. Est-ce que ça vous dit quelque chose, non? Alors je pose cette question à la dame qui est derrière vous, puisque l'échiquier est à ce niveau-là. Est-ce que ce que j'ai dit vous parle, vous dit quelque chose?
Des projets,
j'avais toujours, j'avais toujours envie. D'accord. Donc ça vous concerne, en avant. Ça ne sert à rien d'assister. Il faut juste que je me réveille. Qui est Béatrice? Pour le coup, Béatrice, êtes-vous vous concernée par la description que j'ai faite? Êtes-vous une personne qui devait agir sur la vie, qui devait sans arrêt, en quelque sorte, combattre pour obtenir des choses? Je vous dis cela parce que, à vrai dire, chez vous, j'ai vu symboliquement un camion vous foncer dessus. Et pour moi, ça correspond à un choc, un traumatisme. Comme si votre vie, à un certain moment, avait dû... Comme si vous aviez dû remettre votre vie en question suite à un événement, un traumatisme. Le camion est venu de derrière vous, et je crois que ça a été pour vous une surprise. Ça a été, semble-t-il, un choc, parce que vous ne vous y attendez pas. Et de fait, j'ai le sentiment que depuis cette période-là, votre vie... est plus difficile qu'auparavant, comme s'il y avait plus de combats à mener, comme s'il y avait plus de difficultés à avancer. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Oui. Est-ce que depuis le décès... Est-ce que le décès de votre mari est survenu comme ce camion violent et qui vous a renversé? Oui. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? À vrai dire, vous me dites que vous allez mieux. Moi, je constate que vous gardez toujours la trace de ce camion qui vous a roulé dessus. Une partie de votre corps est écrasée. Et je dois dire que c'est cette partie-là qui correspond aux émotions et à l'amour que vous portez pour cet homme. Je ne crois pas, malheureusement, que vous ayez su ou pu vous guérir de ça. Vous êtes probablement debout encore, mais il me semble que, par rapport à ce que je vous décris, vous êtes la terre, je le crains.
Son mari
est parti il y a combien de temps? Vous voulez qu'on en parle plus tard ou pas? Oui. Il est parti il y a 16 mois, comment s'appelait-il? Comment? Ai-je raison de croire que votre mari était un soutien défectif, quelqu'un sur lequel vous pouviez vous appuyer? J'ai le sentiment que vous n'étiez d'ailleurs pas la seule, comme si c'était un homme qui prêtait son épaule à qui le voulait. En ce sens, je trouve l'âme de votre mari très généreuse. Mais il me donne le sentiment, dans sa vie, d'avoir été limité. Je me demande en quelle mesure il n'a pas été fatigué par sa vie, par son rythme de vie. Comme si son épaule n'était pas assez large, et comme si on s'y était beaucoup appuyé dessus. Votre mari me donne l'impression donc de s'être épuisé et d'avoir été d'une certaine façon heureux de partir. Comme s'il était arrivé au bout du rouleau, comme si son corps physique avait tout donné en quelque sorte. Mais pour autant... J'ai l'impression que dans sa tête, ça continue à tourner. Comme si cet homme avait en lui une rage de vivre et d'apprendre. Et surtout de donner, toujours. C'est un homme qui ne regrette pas d'être parti. Il ne regrette finalement qu'une chose, c'est que vous ne soyez pas partis ensemble. Il aurait bien voulu cela, visiblement. Alors il a compris de l'autre côté que les choses ne se passent pas comme ça. Et qu'on ne décide pas de tout. Est-ce un homme qui avait un certain pouvoir et qui savait dire les choses, qui savait s'imposer, prendre des décisions?
Oui.
Oui. J'ai pas le sentiment que votre mari était apprécié de tous. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'était fait des ennemis à votre connaissance? Non. Pour moi, votre mari, c'est quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. Alors qu'il n'allait, selon moi, il n'allait pas forcément au fond des choses parce qu'il savait qu'il risquait de blesser. Et j'ai pas le sentiment que votre mari allait jusque-là. Mais il savait être critique, votre mari.
Comment ?
Votre mari savait être critique.
Oui.
C'est dans ce sens-là, si vous voulez, qu'il a pu se faire des ennemis. Parce que je crois pas qu'il était beaucoup apprécié par rapport à son œil de vérité, par rapport à son sens aiguisé des choses. Votre mari, et c'est probablement ce que vous souhaitez savoir avant tout, se porte très bien de l'autre côté. Il est d'ailleurs arrivé très rapidement de l'autre côté. Ai-je raison de croire que vous l'avez beaucoup soutenu, sa famille, son entourage, par des prières et des bougies? Et cela, il a parfaitement bien ressenti. Et je dois dire que, vous savez, je ne suis pas religieux, mais bon, les autres ont leur avis, il a été très sensible aux bougies. Vous en mettez toujours ou pas? Oui. Alors, je vous demande de continuer. Je vous dis, pour le moment, continuez à mettre des bougies. Cela m'aide beaucoup. Mais je devine son intention. En réalité, c'est vous que ça aide d'abord. Et quand il vous dit cela, c'est qu'il ne veut pas vous gêner par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Je le sens particulièrement délicat avec vous. Comme si cet homme avait beaucoup de pudeur dans l'amour que vous aviez tous les deux. Et je le ressens parfaitement dans ce qu'il vient de vous dire. Mets des bougies pour moi, en réalité, c'est pour vous que c'est utile. Vous avez des enfants? Quel âge ont-ils?
33,
30, 20. Vous avez une fille?
Oui.
Diriez-vous que de vos trois enfants, c'est votre fille qui est la plus attendue? Avez-vous constaté que votre fille, depuis le départ de son mari, a du mal à respirer, a du mal à retrouver son souffle? Vous n'avez pas constaté?
Oui.
Vous n'êtes pas en communication avec elle?
Oui.
Voulez-vous adresser un message de son père pour elle? Elle peut vous écouter ou pas?
Oui.
Votre mari a beaucoup aimé votre fille, sa fille. Et il regrette qu'elle soit partie si loin. Ça a été pour lui un déchirement. Ça a été son deuxième amour. Et ça lui a fait un grand vide. Et pour autant, il a toute occasion aujourd'hui de la voir vivre. Et il assiste autant qu'il le peut. Alors il dit cela parce que selon ce que je comprends, elle vit mal le départ de son père. Peut-être qu'elle ne vous dit pas. Mais selon lui, elle le vit mal. Et il assiste autant qu'il le peut. Essayez de vérifier si c'est effectivement le cas. Et si c'est le cas, assurez votre fille de la présence de son père à ses côtés. Son père restera auprès de sa fille autant que nécessaire. Il paraît que votre mari était déçu par un de ses fils. Puis, vous permettez-moi d'utiliser peut-être ce terme-là, que j'emploie parfois, pour bien dire ce que je ressens. Est-ce que l'aîné est con? Est-ce que c'est un petit con? Est-ce qu'il s'est porté avec légèreté vis-à-vis de son père? Oui. Votre père? Il y a dans votre père un vide qui reste à combler. Mais c'est à votre fils de faire la démarche. Son père ne le fera pas à sa place. Mais votre père se dit que finalement, peut-être que son fils agira comme lui quand il a perdu son propre père. Il espère que votre enfant réussira à se rappeler de son père et à lui trouver les formidables qualités qu'il avait. Hein? Je peux plus dire. En soi. Avez-vous l'impression, François, d'avoir des difficultés à soigner les gens depuis quelque temps?
Un petit peu.
Oui. Sentez-vous, à ce niveau-là, une sorte de déperdition au niveau de l'épaule droite ou alors au niveau du bras? Il y a, selon ce que je vois, un déplacement de vos énergies. Pour moi, tout est concentré à gauche. Ici. Tout est concentré ici. Et de fort, de telle sorte que vous êtes ici un petit peu comme un corps dont la substance est aspirée. Et il faut très probablement
remédier à cela
parce que ça provoque un déséquilibre. Je pense que c'est la cause de vos difficultés à soigner les gens. Vous pratiquez quoi?
Je pratique magnétisme.
Oui.
La lipose aussi.
D'accord. Vous avez perdu quelqu'un dernièrement? À ce niveau-là, il y a une barre, il y a un trou.
Ah, c'est mon fils.
C'est votre fils. Il est parti il y a combien de temps?
Ça fait 22 ans.
Ça fait 22 ans.
Ouais.
De toute évidence, il est en vous. Et de toute évidence, vous vous rapprochez à lui. Vous voulez qu'il soit près de vous.
C'est mon guide aussi.
C'est votre guide. Ouais. Comment s'appelle-t-il?
Eric.
Très bien. Très bien. Il va falloir qu'à un certain moment, vous lui permettiez de partir. Parce qu'il y a la nécessité maintenant de passer à une autre étape de votre existence et de laisser la place à quelqu'un qui est d'une certaine façon
plus performant,
si je puis dire.
Mais votre fils a
aussi, semble-t-il, ça une route à faire, une route qui est toute personnelle. Il est parti à quel âge, vous m'avez dit?
18 ans.
Il vous a donné tout ce qu'il a pu, mais vous l'avez, selon lui, dépassé maintenant. Vous l'avez atteint, rejoint, et vous êtes sur le point de le dépasser. Il a le besoin maintenant de passer à autre chose. Et il vous remercie infiniment de lui avoir servi de guide. Vous l'avez appelé guide, vous. En réalité, c'est vous. Vous vous êtes guidés tous les deux. Lui, dans le développement de votre faculté, et vous, dans la réussite d'une première étape de l'autre côté. Il avait besoin de cela pour se rassurer, pour comprendre qui il était, et pour passer à une nouvelle étape.
Moi aussi, je remercie.
Ouais. Vous allez travailler conjointement, c'est bien. Alors, il se peut que le passage d'un guide à l'autre, d'un maître à l'autre, puisse provoquer en vous un passage à vide, un doute. Parce que puisque vous êtes attaché à votre enfant, enfin en tout cas à l'âme de votre enfant, il se peut qu'en vous, il y ait des résistances. Hein. Dépasser ces résistances-là. Songez simplement que vous avez le droit d'offrir à votre enfant la possibilité d'être libre, de se libérer d'une tâche pour se rendre dans une autre tâche. Mais ce faisant, tranquillisez-vous parce que le maître qui va vous rejoindre est un beau maître. Il y a, au niveau du ventre, une longue cicatrice. Dites-moi, avez-vous réussi à tout dire, à tout extirper de vous? Ou bien contenez-vous en vous ce qui pourrait ressembler à de la colère, à du ressentiment?
Je pense. Oui.
Il y a quelque chose que vous devez absolument extraire. Parce que ça vous ronge, ça vous bloque. Et l'opération d'ouverture est très belle. C'est un expert qui vous a offert, qui vous a ouvert, et il vous rassure, si tu arrives à tout ce qu'on peut sortir, je ferai une belle cicatrice. Vous sentez-vous prisonnier en ce moment, bloqué? Il y a, au niveau du pied, il y a une chaîne. Vous êtes relié à un boulet. Et le boulet, la chaîne du boulet est très longue, j'ai l'impression que c'est un blocage qui remonte à très très loin, peut-être à l'enfance. À vous de trouver le moyen de vous en débarrasser. Écoutez, à la place de votre téléphone, il y a une clé. À vous de saisir la clé. Elle est à votre portée. Elle est juste ici. Ça m'oblige simplement, si je puis dire, à vous comprendre, à de l'humilité. En fait, je vous vois vous mettre à genoux et récupérer la clé. Il faut juste vous pencher davantage. J'imagine assez bien que ça peut aussi vous libérer par rapport à votre discipline de soins.
J'ai ma sœur aussi qui m'aide. Hein.
Oui, d'accord. Avez-vous une question, une remarque à faire?
Non, c'est super. Je pense que c'est peut-être blessure d'abandon.
C'est bien possible. Hein. Ouais. C'est bien possible.
J'y travaille en ce moment.
Alors, à vous de réfléchir sur ce que ça signifie, cette position d'humilité que vous devez apporter. À vous de réfléchir.
Merci beaucoup.
Vous en prie. Avez-vous été quitté, madame? Oui. Parce qu'il y a une partie de votre hanche qui a été bouffée. De fait, dans la vie, vous marchez sur une jambe. Vous êtes handicapé. Est-ce que le fait d'avoir été abandonné vous a beaucoup handicapé dans la vie? Vous ne vous en rendez pas compte? Vous ne savez pas?
Oui, sûrement.
D'accord. C'est récent. Le fait, c'est que la blessure est probablement réparable. Elle ressemble, vous savez, à la blessure infligée par un requin. Le morceau n'a pas été arraché, mais il y a des crocs. Et c'est suffisamment profond pour vous empêcher d'utiliser cette jambe-là. Hein? On est dans le symbole. Si vous ne comprenez pas le symbole, il faut me demander de compléter. Est-ce que vous avez été abandonné par un homme? Est-ce que vous diriez que c'est un homme et c'est un requin? Est-ce que c'est un quelqu'un qui, d'une certaine façon, était dans le pouvoir? Quelqu'un qui avait tendance, vous savez, à prendre plutôt qu'à à recevoir plutôt qu'à donner? Oui, j'essaie de travailler sur l'image du requin, hein, sur ce que le requin me procure comme impression. Diriez-vous que cet homme est quelqu'un qui a l'habitude, qui est un peu volage, quelqu'un qui va d'un endroit à un autre, d'une rencontre à un autre. Le requin agit comme ça dans la nature, vous savez. Le requin ne se repose jamais. Vous avez laissé une photographie? Vous en aviez laissé une? Avez-vous une question à poser, une remarque à faire par rapport à ce sujet-là, ou un autre sujet?
Est-ce que c'est quelqu'un qui continue à s'accrocher à moi?
Ah.
C'est quand même un peu ce que je ressens.
Oui? Comment s'appelle-t-il?
Pascal.
Quel âge a-t-il?
54.
Je peux être franc? Il s'attachera à vous tant que vous pourrez lui donner de la substance. Tant que vous serez un morceau de bouteille pour lui. À vous de comprendre le sens de ce que je viens de vous dire. Pour être un peu plus clair, vous réussirez à vous détacher de ce personnage dès lors que vous le souhaiterez, le désirer très fort. Tant que vous désirerez qu'il reste dans votre entourage, il restera. Parce que c'est formidable. Vous pouvez lui offrir un confort tout à fait merveilleux pour lui.
Pourtant, hein? Je ne lui offre rien.
Hein? Ben, ça, c'est ce que vous imaginez. C'est ce que vous imaginez. Si vous souhaitez vous détacher de ce personnage, ne lui offrez absolument rien. Pas d'ambiguïté, pas de rappel. Et c'est lui, ne lui offrez aucune opportunité de s'accrocher à vous, avec ses dents acérées. Et vous verrez que la blessure se refermera, alors, et vous pourrez passer à quelque chose d'autre dans votre existence. Parce que là, vous êtes blessé, vous n'avancez pas. Qui est Eliane? Martine, veux-tu lire des messages? Oui?
Nadège,
confondu. Est-ce que je peux lire? Alors, mon guide, peux-tu me montrer ma voie spirituelle? Je suis venue dans quel but sur terre? Merci. Je suis avec toi dans la vie de chaque jour et je t'accompagne dans le bon sens. Je ne peux te diriger autrement. Car tu dois faire... Non. Tu dois suivre la voie, celle que toi, tu juges devoir prendre. Aussi, je suis ton compagnon et je vis près de toi dans le meilleur comme le plus mauvais. Nous avons convenu ensemble de ton chemin de vie et nous t'accompagnons sur cette voie. Tu ne sais pas ce que tu pouvais ressentir à ce moment-là, mais sache que tu es sur la bonne voie.
Juste une chose. Est-ce que cette voie peut consister à abandonner quelque chose ou quelqu'un? J'y reviendrai peut-être tout à l'heure.
Ensuite, Jeanne, Patrick. Est-ce que je peux lire?
Comment?
Est-ce que je peux lire?
Oui.
Oui. Alors, continuerai-je ma vie tranquillement, paisiblement, chez moi, sans handicap? Je pense tout le temps à toi. Je pense à toi aussi, et je suis vraiment heureux que tu penses ainsi au moment qui nous ont été chers, qui ont été chers à nos vies. Continuer ta vie paisiblement, oui, je le pense, mais crois-tu que la tranquillité soit une bonne chose à étudier? Pourquoi penser au handicap? Cela n'est pas dans ton avenir. Pense à toi et prends soin de ta santé. Vous comprenez quand il dit qu'il faut pas que la tranquillité, c'est pas quelque chose à étudier forcément?
Ah non, je n'ai pas compris.
Parce que on est là pour affronter des épreuves et que choisir la tranquillité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous comprenez mieux ça?
Non.
Toujours pas. Est-ce que Patrick était quelqu'un d'énergie?
Oui.
Oui. C'était quelqu'un qui bougeait et qui n'était pas forcément dans la tranquillité au repos.
Ah non.
Hein? Voilà. Donc, il essaye de vous booster. Vous comprenez booster? Oui. Voilà. Vous comprenez mieux? Oui. Ensuite, j'ai Titus pour Denise. Est-ce que je peux lire?
Bien sûr.
Alors, est-ce que ton jeu est bon? C'est ça, la question. Alors, ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, mon jeu est bon. Je suis heureuse et je parcours un nouveau chemin qui me conduit vers la connaissance. Je pense d'ailleurs que je n'aurais jamais imaginé vivre de tels instants. Est-ce que ça vous convient? Ensuite, j'ai Marilyn à Antoine. Est-ce que je peux lire? Alors, la question, je me demande toujours si tu nous en as voulu à papa et à moi, et si tu es parti ce matin-là en colère contre nous. Vous en vouloir? Non, bien sûr que non. La colère, je n'en ai pas eu non plus. Tu sais, à ce moment-là, précis du départ, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. Si quelque chose nous a quelque peu troublés, eh bien, il s'oublie, s'efface, pour nous montrer que ce que nous emportons doit être ce qu'il y a de meilleur. C'est bon ça? Ensuite, Viviane, pour son guide. Est-ce que je peux... Quel est le but de ma réincarnation? Tu comprendras bien que je ne peux te donner le déroulement de ta vie, parce qu'elle fera ce que toi tu en feras. Le chemin que tu empruntes te conduit vers ce destin, celui que tu as choisi, celui que nous avons choisi. et que toute existence est nécessaire pour notre élévation. Voilà ce que je peux te dire. Ensuite, j'ai Ginette. Est-ce que je peux lire? Comment va évoluer ma vie personnelle? Tu arrives à la croisée d'un chemin, et là, une décision importante doit être prise. Je vais t'aider pour prendre le bon chemin, mais je ne peux interférer de façon formelle. Alors je te demande de réfléchir et de bien écouter ton cœur, car tu as la possibilité de prendre un chemin qui sera l'aboutissement de ta vie. Est-ce que vous sentez que vous êtes à la croisée d'un chemin? Est-ce que... Oui? Bien, donc ça vous parle bien. Ensuite, j'ai Dominique à son livre. Est-ce que je peux dire? Si je vais arriver à faire disparaître mes angoisses et mon anxiété, je te conseille de t'exercer à faire du lâcher prise. Je t'assure que tu n'as pas à t'angoisser de cette façon. Penses-tu à nous assez souvent? Oses-tu demander de l'aide suffisamment pour que tu sentes en toi une nouvelle énergie, celle qui apaisera tes craintes? Je veux que tu sois plus attentive à notre présence, bien plus qu'à ces angoisses qui te mangent, si je peux dire, pour rien. Vous comprenez ce qu'il vous dit? La dernière pour l'instant. Marie-Ange à Adrien. Est-ce que je peux lire? Est-ce qu'Adrien a un message à me faire passer? Alors, je suis bien, si c'est cela que tu veux savoir, de mon côté, tout va bien. Maintenant, si ta demande se porte sur ta vie, alors je dirais ceci. Fais attention, regarde bien autour de toi. Si des yeux se montrent tendres, alors tu peux te dire qu'il y a peut-être mensonge. Je dis cela pour toi, non pour te faire peur, mais juste pour te prévenir. Est-ce que vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous mentir? Alors, eh bien, son conseil, c'est de faire attention.
C'est une attitude de protection.
Oui. Ah ben oui, protection.
Il insiste sur ce côté-là, en fait. Oui.
Qui est Sylvie? Qui est... Oui. C'est là-bas. Qui est Eliane? Bien, vous serez, je crois, les dernières personnes. Ensuite, je passerai aux photographies, d'accord? Eliane, avez-vous dû vous battre pour être celle que vous êtes? J'ai le sentiment qu'on a essayé de vous écraser. Il y a autour de vous toute une structure que vous avez construite, qui a été démolie, que vous avez reconstruite. Pas forcément toute seule, d'ailleurs, parce qu'il me semble que vous avez reçu beaucoup d'aide de l'autre côté. Parce qu'à la vision de la structure, il y a des éléments qui brillent et qui sont éthérés. Je dirais que vous êtes tel séchard à cette vie et qui renaissent sans arrêt, tel un phénix. Et votre interlocuteur veut souligner à quel point il y a en vous une force vive, à quel point il y a aussi un courage. Et il veut vous remercier selon ce que je comprends, pour l'exemple que vous avez été, que vous êtes, mais pour autant, il constate que ce n'est pas un exemple qu'on a forcément voulu voir ou reconnaître comme tel. Comme si, dans votre combat, il y avait eu incidemment l'opportunité de servir d'exemple, mais à des gens qui ont bien soigneusement fermé les yeux et puis se sont réfugiés, disons, dans des coins de mur ou dans des coquilles. Hein. Votre interlocuteur, je n'en sais absolument rien.
Je ne sais pas.
C'est quelqu'un qui, visiblement, vous a assisté, vous a accompagné dans cette expérience-là. Avez-vous le sentiment que vous entrez enfin dans une période tranquille de votre existence? Alors, il vous dit que les ennuis vont bientôt se terminer et que vous pourrez mettre une chape de plomb sur des chocs et des traumatismes qui éveillent parfois en vous de mauvais souvenirs. Il dit que vous en aurez toujours le souvenir, parce que ça fait partie de vous, et parce que c'est votre force et votre richesse. Mais pour autant, vous réussirez à ne plus en ressentir les effets, cette chape de plomb. Une chape de plomb transparente, d'ailleurs, parce que je vois ce qui se passe au travers. Il dit cela parce que, visiblement, vous l'avez mérité, parce que le combat était rude, et parce que vous méritez enfin d'être heureuse et de passer à une nouvelle période de votre existence. Donc, soyez tranquillisés par rapport à ce qui va se produire. Il y aura probablement des dernières choses arrachées, comme des mauvaises plantes, en quelque sorte. J'imagine assez bien que ça peut être une des relations dont il faudra définitivement vous débarrasser. Et ensuite, la vie sera bien plus agréable et vous pourrez, si je puis dire, faire, sans doute, connaissance d'autres personnes, avec d'autres qualités. Ai-je raison de croire que vous êtes très sociable, que vous parlez, que vous avez besoin d'échanger? Votre interlocuteur, donc, évoque une nouvelle période avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, et qui seront plus en correspondance avec votre énergie, avec vos aspirations réelles. Comme si vous avez passé une partie de votre vie à décider ce qui ne convenait pas. Alors maintenant, vous allez choisir ce qui vous convient. Est-ce que je peux dire pour vous? Dites-moi juste une chose pour que je comprenne. Est-ce que dans votre vie, vous avez éprouvé beaucoup de honte? De honte? Non, d'accord. Alors il me semble que ça peut correspondre à la personne. Lorsque j'ai ressenti, j'étais ici dans cette travée. Alors je demande aux deux personnes qui sont ici, à la jeune femme et à la dame Aune, avec des lunettes. Oui, avez-vous éprouver l'une, est-ce que l'une de vos épreuves a été la honte, affronter la honte? Non? Oui, enfin. Vous voyez, l'ennui avec ces visions, d'une certaine façon pour le moment, c'est que je ne suis pas toujours capable de voir la profondeur, d'estimer la profondeur. C'est bien dans la direction, mais pas forcément dans la profondeur. Voulez-vous qu'on évoque ce sujet ou pas? Et votre prénom? S'est-on servi de vous? Avez-vous le sentiment qu'on s'est servi de vous? Qu'on a ignoré ce que vous êtes, ce que vous étiez? Qu'on s'est servi de vous? Certaines qualités, alors que vous aspiriez, vous, à en exercer d'autres. Comme si on n'avait pas su vous reconnaître, comme si on n'avait pas su la personne riche que vous êtes. Et j'ai vraiment le sentiment, vous savez, qu'on vous considérait un petit peu comme un balai, qu'on sortait d'un placard, qu'on utilisait parce que la tâche était pas grave, et qu'ensuite on vous révisait dans le placard. Est-ce que vous avez vécu? C'est ce que vous vivez en ce moment. Et le fait, c'est que des personnes qui agissent comme cela vis-à-vis de vous sont des personnes aveugles, ignorantes, sourdes et insensibles. parce que pour autant que j'arrive à lire en vous, il y a chez vous des qualités indéniables, des qualités de cœur et d'âme indéniables. Malheureusement, vous vous accotinez avec les mauvaises personnes. Comme si en ce moment, dans votre vie, vous attiriez des mauvaises personnes, l'inverse de ce que vous êtes.
Ou des gens qui ont besoin.
Ou des gens qui ont besoin, parce que vous les attirez. À vous de contrôler ce phénomène. À vous de savoir régler ce que vous envoyez aux gens et ce qu'ils reçoivent de vous. Parce qu'à ce rythme-là, on va vous bouffer. À ce rythme-là, vous allez perdre votre santé, vous savez. Donc, il faut probablement être plus forte et plus sévère. Et dites-moi, parmi vos ennuis, parmi les personnes qui vous ennuient, sommes-nous dans le domaine sentimental ?
Amical.
Amical. Ai-je raison de croire que vous cherchez sans arrêt les mêmes personnes ?
Oui.
Que vous attirez les mêmes personnes, hein ?
Oui.
Vous les reconnaissez maintenant ? Elles arrivent de loin.
Bon.
Vous les voyez ? N'y a-t-il pas pour vous le moyen, lorsque vous les voyez venir, simplement de détourner votre regard ? De vous éloigner, de les fuir même un petit peu comme on fuirait la peste, parce que c'est vital. Ou plus exactement, à un certain moment, ça va devenir. Si vous continuez sur cette voie, vous attraperez une maladie. Votre corps va en subir des conséquences. Or, j'ai moi le sentiment que vous avez besoin de votre corps pour accomplir votre mission sur Terre. Votre corps semble être quelque chose de très important pour vous. Que faites-vous dans la vie?
Je suis en congé parental actuellement, mais j'aide les personnes.
Oui. Non, très bien. Donc vous avez besoin de cette enveloppe pour aider ces personnes-là. Hein. Entretenez votre corps. Parce que visiblement, une telle mission nécessite un outil en forme. Hein. Donc vous pourrez accomplir cette mission-là en travaillant sur l'autre aspect de votre existence, sur l'autre aspect de votre mission. Vous débarrasser de ces parasites. Hein, d'accord ? C'est très important pour vous de parler. Je suppose que c'est un rapport avec votre générosité. Quand on est trop bon, on est trop con. Vous savez, cette formule est vulgaire, mais elle dit beaucoup de choses quand même. Et le fait, c'est que sur Terre, on peut être bon, mais être aussi ferme. La bonté, ce n'est pas tout offrir aux gens. Il faut leur offrir ce don, ce qu'ils méritent. Hein? C'est exactement cela. Or, ces gens-là ont des mérites. Hein, d'accord ? Bien, j'en termine avec vous. Et puis ensuite, on aura, si je ne me trompe pas, 40 minutes, c'est cela ? Ah non, alors écoutez, je passe aux photographies, on se verra tout à l'heure, d'accord ? Martine, quand tu veux, il y a des messages que je me dis. Qui est Mireille qui a laissé cette photographie-là ? Avait servi de cobaye. Qu'est-ce que c'est ça pour vous ? Elle est partie en 2006, à quel âge ?
De 65 ans.
Ouais, ça fait comment ? Ai-je raison d'être heureux sans contact ? Est-ce quelqu'un qui inspirait le sourire et une forme de bonheur ? C'est une dame qui, me semble-t-il, était dans un état d'esprit qui l'amenait à aider les gens, à leur donner des conseils, à les revitaliser en quelque sorte. C'est quelque chose qu'elle a gardé. Mais je vous dirais qu'elle me fait rire aussi. J'ai le sentiment que c'est une femme qui est capable, une âme, est capable de rire de tout et très facilement. Dites-moi, pour que je comprenne, elle croit bien la survivance de l'homme après la mort. Oui. Pourquoi se réjouit-elle que vous soyez ici? Êtes-vous habitué de ce genre de choses?
Oui.
Oui. Pourquoi alors est-elle aujourd'hui très heureuse que vous soyez ici, réjouie même? Vous ne savez pas? Vous venez avec quelqu'un?
Vous avez laissé quelque chose?
Ah, c'était, et ce n'est que la seule? D'accord, bon.
Écoutez, votre mère se réjouit que vous soyez ici parce que, me semble-t-il,
vous êtes dans votre milieu. Vous respirez quelque chose ici. Et de fait, au niveau de votre nombril, je vois une sorte de cordon, si vous voulez, quelque chose de vaporeux, rentrer en vous. Est-ce que, d'un point de vue physique, vous êtes malade en ce moment? Non? Êtes-vous malade, fatigué? Non? D'accord. Depuis quand? D'accord. Vous avez des enfants? Vous en attendez un autre?
Non.
Vous pouvez en avoir un autre? C'est un peu tard. D'accord. Bon. Voyons voir. Voyons voir. Dans votre milieu professionnel?
Oui.
Oui. Parce qu'il y a, chez vous, en tout cas votre mère, me donne le sentiment que vous avez du mal à respirer et que les choses se passent mal à ce niveau-là. Comme si vous en aviez assez, comme si l'ambiance était devenue tellement difficile que vous n'aspirez qu'à partir ou à vivre autre chose. Votre mère dit, si je vivais, je sais ce que je leur ferais. Votre mère était capable de prendre vos défenses et de défoncer les haraques, comme on dit.
Oui.
Vous voyez, c'est l'idée qu'elle est. Selon ce que je comprends, elle pense que ces gens-là vont se voir. Et qu'on se sert de certaines façons. Ou plus exactement, qu'on ne fait pas attention à vous, pas assez attention à vous. Alors je demande s'il y a une amélioration. Pas l'information pour le moment. Mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement le savoir plus tard. D'accord? Avez-vous quelque chose à dire ou une remarque à faire?
Non, si elle va bien.
Oui. Elle est restée elle-même. Elle est restée elle-même et je vous dirais même qu'elle est mieux qu'elle n'était parce qu'elle est tout à fait libre. Libre de penser, libre d'agir. Et surtout libre de rire. Ce qui caractérise l'âme de votre mère, c'est une détente de son esprit. Elle s'est installée une ambiance agréable. Et donc si votre mère a vécu sa fin d'existence a été un peu pénible, difficile, vous constatez que je suis très loin derrière. Elle est vraiment passée à une nouvelle phase de son existence et c'est plus évident. Ce qu'elle sait, c'est que dans votre vie, il y a des aspects qui vont mal pour le travail.
Elle est prête.
Votre mère vous demande une chose. Elle vous dit, tu veux que je l'orchestre? Elle ne le fera pas. Ce n'est qu'une plaisanterie de sa part.
Hélène,
6 mois. C'est ce garçon, cet homme est parti il y a 6 mois. Comment s'appelait-il?
Éric.
Parti de mort violente? Vous avez bien prié pour lui comme vous l'avez demandé? Très bien. Éric avait-il parfois des excès de colère? Était-il un révolté, plus exactement? J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui n'acceptait pas les choses, qui n'acceptait pas l'expérience de vie qu'il menait. Comme si, au fond, depuis longtemps déjà, il était installé dans une impasse. Et comme si dans cette impasse, ben, en fin de compte, il n'avait plus jamais progressé. Il me donne le sentiment d'avoir été toujours de plus en plus malheureux et de n'avoir pas eu d'espoir pour s'en sortir. Il est parti dans quelles circonstances ? Ça tombait bien, en fin de compte. Parce que, selon ce que je perçois, sa vie n'avait plus beaucoup de sens. En tout cas, il n'en trouvait plus. Ai-je raison de croire qu'en fin de compte, il n'était pas le personnage qu'il aurait voulu être ?
Oui, justement, il avait changé, il avait complètement changé.
D'accord, il avait une remise ?
Oui, et comme ça, ça avait l'air de bien aller, justement.
Pour moi, c'était une période d'accalmie seulement. Je ressens chez ce personnage une blessure profonde. Une blessure qui était bien inscrite en lui, une cicatrice qu'il n'avait pas refermée depuis tout ce temps. Et je crois que c'était quelqu'un qui allait replonger, selon moi. Après, bien que pour vous, il allait mieux. Écoutez, selon son point de vue, les choses sont bien. Il était temps. C'était quelqu'un qui avait de l'ambition. Mais il n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs.
Oui, on avait l'impression qu'il avait réussi justement à trouver sa voie et que comme ça, il était heureux.
Pour lui, ses objectifs n'avaient pas été atteints. J'imagine que ce sont ses objectifs de vie. Vous savez, les promesses dont on a parlé pendant le premier sujet. Et ça l'arrange bien d'être parti parce que il est bien de l'autre côté. Et il a le sentiment qu'il va pouvoir tout redessiner, de faire table rase du passé, et de pouvoir remettre les pions en place, et de pouvoir devenir, je ne peux pas m'empêcher de dire ça, mais le personnage qu'il aurait voulu être. Est-ce que c'est un peu artiste ou pas ?
Oui.
Oui, c'est ça. Que faisait-il comme artiste ? Était-il acteur, par exemple ? Faisait-il de la comédie ? Oui. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot personnage. Comme si cet homme s'était rêvé dans la peau de quelqu'un. Comme s'il s'était construit un personnage imaginaire auquel il voulait accéder et ressembler. Donc, n'ayez pas de peine pour lui. Tout se passe bien pour le moment, 6 mois après sa mort. Pour moi, tout se passe bien. Et ce qui est très rassurant, c'est qu'il sait pertinemment qui il est, ce qu'il vit. Était-il un être spiritualisé ?
Il était
enfin, très bien. Ce qu'il a pu apprendre lui a servi. J'imagine assez bien que s'il n'avait pas accédé à ses connaissances, il serait peut-être enfermé en lui-même. Peut-être aurait-il des difficultés maintenant de comprendre qui il est et tout, et toutes les conséquences de ses actes. Là, il les mesure parfaitement. Et toi, faisait-il partie d'un groupe qui a pu prier pour lui et le soutenir ?
Oui.
Oui. Donc, pour cela, il reconnaît qu'il a pu s'en sortir grâce à ce soutien, grâce à ces énergies qui l'ont amené vers sa conscience, vers sa libre conscience. Il était têtu, n'est-ce pas ?
Oui.
Il était d'autant plus têtu qu'avant de parvenir à croire en tout cela, apparemment, il y a eu du travail, il y a eu un travail au corps, si je puis dire. Mais il reconnaît tout à fait qu'il a été têtu par orgueil. Et le fait, c'est que vous avez réussi, dans les derniers instants de son existence, à lui enlever la plus mauvaise part de son orgueil. Je dis la plus mauvaise part parce qu'il en a encore. Il en a encore parce qu'il y a de la beauté en lui. Et cela, il le sait. Et il est fier, d'une certaine façon, de l'être qu'il est. C'est pas un pauvre bougre, après dire. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui s'est simplement à un certain moment senti incapable d'avancer tel qu'il avait souhaité ou imaginé. Et c'est pour cela qu'il est resté coincé dans l'impasse pendant si longtemps. Et c'est quelqu'un qui aspirait à quelque chose de beau, à vrai dire. En ce sens, si vous ne l'aviez pas aidé, soutenu, il apparaîtrait aujourd'hui comme un esprit souffrant. Et je vous aurais proposé de mettre son prénom sur la liste pour l'aider, le soutenir. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein? Mais ce n'est pas nécessaire. Voilà ce que je peux vous dire.
Est-ce que de là où il est, il peut aider sa maman à comprendre justement un certain nombre de choses qui...
Laissez-lui un peu de temps. Oui, laissez-lui un peu de temps.
Il pourra le faire.
Il vous dit qu'il ne sait pas. Et toi, quels étaient les rapports avec sa mère? Est-ce que c'était des rapports... Hein?
Pas bon du tout.
Voilà.
Parce qu'elle n'accepte pas justement son changement.
Donc, il faut laisser du temps. Imaginez un seul instant que vous disiez à sa mère, tu sais, ton fils est là, il t'accompagne, il t'aime. Donc il faut laisser du temps. Il faut laisser à cette femme le temps de changer de conscience, mais aussi lui. Ça ne se passe pas comme ça automatiquement. Ce n'est pas parce qu'il désire aider sa mère qu'il veut le pouvoir pour autant. Il va se heurter à un mur virtuel. Les esprits, quelquefois, figurent ces difficultés à atteindre leurs proches, en disant qu'il y a comme un brouillard infranchissable.
Mais ça ne le dérange pas pour l'instant.
D'aider sa mère?
Non, de la pensée de sa mère. Que...
Non, parce qu'il est tellement soutenu par d'autres personnes qui sont de meilleure qualité. Oui. Non, pas du tout. Comment s'appelle sa mère?
Daniel.
À quel âge c'est ça?
15.
Pour le coup, dites-moi. Est-ce que cette femme est un peu artificielle?
Ah oui.
Hein? Peut-être que c'est elle qui a implanté en son fils, vous savez, ce rôle, hein, ce personnage qui devait devenir. Lorsqu'il en prendra conscience, ou s'il en a conscience, on va devoir vivre ça quand même. Elle est quand même responsable de tout ça. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Martine?
Et que je ris. Comme on m'a dit, je suis bien et heureuse. Oui, je sais que tu auras du mal à le comprendre. D'abord parce que cela est difficile à expliquer, mais aussi parce que cela va au-delà de ma nature terrestre. Tu n'es pas quelqu'un qui s'amusait beaucoup? Si? Eh bien, moi, elle s'amuse encore plus. Mais retiens cela, je m'amuse et je ris.
Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Pascal à Marc. Est-ce que je peux lire? Comment vois-tu mon évolution dans les mois à venir? Tu sais prendre les bonnes décisions et je ne suis pas inquiet pour ton avenir. Puis-je juste te dire que tu auras la satisfaction de voir aboutir un de tes rêves, celui qui te tient le plus à cœur. J'aime cela et j'en suis heureux pour toi. Vous avez des rêves? Oui? Vous en avez un particulièrement que vous avez envie de voir aboutir? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Eliane à Patrick. Est-ce que je peux lire? Oui. Patrick a-t-il trouvé la sérénité? Cela ne fut pas simple au début, tu sais, mais j'ai trouvé la foi, la force d'avancer et de prendre la main qui s'est tendue vers moi. Alors aujourd'hui, je peux te dire que je commence à me rétablir. Je suis dans une étape de profond rétablissement. Je suis bien entourée et je sais que je vais m'en sortir. J'en ai la force, j'en ai la foi. Oui, je le redis aujourd'hui. Ah, ça va pas, je vais le faire. Guylaine à Thierry. Est-ce que je peux lire? Pourquoi être parti si jeune? Tu sais, il y a parfois des décisions qu'il faut savoir prendre, malgré la peine que cela peut procurer. Alors mon message est le suivant. Je devais choisir et je l'ai fait. Peu importe l'âge, peu importe le moment, je devais partir. Je devais reprendre cette liberté qui me manquait tellement. Anaïs à Arlette. Est-ce que je te lis? Le bonheur restera-t-il dans ma vie? Peux-tu souhaiter ne jamais connaître d'épreuves? Non, cela ne se peut, puisque le but de nos existences est de connaître les sentiments. Mais celles qui se présenteront, donc les pas des épreuves, hein, celles qui se présenteront à toi ne seront pas insurmontables, bien plus douces que celles que tu as déjà passées. Vous avez des épreuves à subir? Alors sois tranquille, le bonheur ne s'échappera pas. Alors, vous aurez quelques épreuves, mais elles ne seront pas trop, trop difficiles.
Enfin,
vous ne faites pas confiance à tout le monde. Isabelle, à son guide. Je peux lire? Puis-je espérer le retour de ma fille Charline? Charline? Et d'avoir le bonheur de prendre dans mes bras mes petits-enfants. Je te conseille la patience. Tu sais, un jour, tu pourras tenir près de toi et dans tes bras ces enfants qui te manquent aujourd'hui. Ta fille se fera violente, t'entends comme ça, et comprendra beaucoup de choses. Mais pour cela, il te faudra attendre un peu. C'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Jacqueline, pour son guide. Est-ce que je peux dire? Suis-je appelée à continuer dans le chemin spirituel actuel ou dois-je me diriger vers une autre voie? Donnez-moi une indication si vous voulez. Le chemin que tu empruntes aujourd'hui est dans le bon sens. Tu dois continuer sur celui-ci et apprendre, encore apprendre.
Reste 20 minutes. Jacqueline, il y avait dans la première partie de ma médiumnité, au-dessus de toi, un entonnoir fantastique. Un entonnoir dont le petit bout était dirigé vers toi au-dessus de ta tête et se remplissait de mots. Mais les mots et les lettres avaient différentes couleurs. Ils étaient dispersés, ils étaient déstructurés. Et il trouvait du sens là. As-tu un projet d'écriture en ce moment?
Oui.
Oui. Donc c'est un encouragement qui t'est fait, et c'est le signe évident que tu es inspiré. Mais tes accompagnants, de l'autre côté, ne veulent pas te faciliter la vie, parce qu'il semble que l'ouvrage, en tout cas ce que tu souhaites écrire, soit en quelque sorte l'œuvre de ta vie. Comme si tu es prête maintenant à y mettre tout ce que tu as dans ton cœur et dans ton corps. Et pour cela, ils veulent bien te donner les lettres. Je crois que ça correspond, si tu veux, enfin, je vois ça comme une structure, en quelque sorte. Mais c'est à toi de l'annoncer, de la visser. C'est à toi d'en faire quelque chose qui tient la route. Hein? Il y avait, dans certaines de tes lettres, des couleurs qui évoquent pour moi des émotions et des douleurs aussi. J'ai le sentiment que c'est un ouvrage autobiographique, pour tout te dire. Qui est Christiane? Quelle était cette photographie-là? Oui. Comment s'appelle cette jeune femme? Elle est partie il y a 12 ans. Elle est décédée.
Elle est 13 ans.
Elle avait quel âge, dites-moi?
Elle va avoir 24 ans.
Dites-moi, avait-elle eu un enfant ou pas?
Comment?
Avait-elle eu un enfant?
Non, justement, il y a un gros problème.
Oui, parce qu'il y a autour de cet esprit-là une notion très forte liée à la maternité.
Elle aurait adoré avoir des enfants.
C'était visiblement pour elle un de ses objectifs, une de ses missions, parce qu'elle avait, je crois, un sens de la pédagogie, elle avait un sens de la responsabilité aussi. Je crois qu'elle aurait été une très bonne mère. Je trouve que la vie l'a ramenée plutôt que prévu. Alors je ne sais
pas.
Elle s'est suicidée. Et de fait, elle a interrompu tout ce qu'elle devait vivre, tout ce qu'elle pouvait vivre. Mais elle le promet, elle est armée, elle est fantastiquement bien préparée, et elle promet de revenir. Et cette fois-ci, de ne pas lâcher l'affaire. Votre fille ressemble à quelqu'un, un soldat, vous savez. Votre belle-fille. Votre belle-fille ressemble à un soldat.
Merci.
À un soldat. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a un objectif et n'en démordra pas. Mais je vous dirais qu'il est fort possible qu'elle ait cet objectif-là, qu'elle ait ce sentiment-là, parce qu'elle a déçu beaucoup de monde. Parce qu'elle a déçu beaucoup de monde. Et cette déception, elle a pris de plein fouet. Et ça a été pour elle une horreur de s'en apercevoir. Elle me donne l'impression d'avoir été aveugle à la fin de sa vie, d'avoir, vous savez, de s'être installée tranquillement dans une bulle et de s'être dit, oh bien, dans cette bulle, je suis confortablement installée, allons voir si je peux voyager. Hein. C'est ce qui expliquera, à mon avis, le fait qu'elle est partie, mais en ayant l'intention ou conscience qu'elle serait mieux. Alors c'est en partie réussi, de vous dire. C'est en partie réussi parce que je ne vois pas de vice en elle. Je ne vois pas de méchanceté dans son âme ou dans ses actes précédents. Je crois qu'elle est partie en toute conscience, si je puis dire, dans son inconscience. Elle est partie avec l'idée qu'elle allait revivre et qu'elle allait vivre autre chose. Vous comprenez ? Sa situation est très différente de ces gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu à la bourse ou parce qu'ils ont été séparés de quelqu'un. On a ici un personnage qui s'est retrouvé de l'autre côté, très rapidement pris en charge et à qui on a fait comprendre progressivement bien ce qui s'était passé. Et de fait, ce qui s'était passé, c'était une sorte de folie, d'inconscience. Bien, votre belle-fille, maintenant qu'elle est libérée de son ancienne incarnation, revient comme un soldat. Et elle est déterminée. Et elle va revenir, elle va casser la baraque. Voilà. Elle va réussir à devenir, comment vous dire, le professeur qu'elle aurait aimé être vis-à-vis de ses enfants. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du guide chez elle. Donc, elle va revenir. Et elle vous dira, elle vous tiendra au courant. Ai-je raison de croire que vous l'avez assistée, que vous l'avez soutenue? Et pour cela, elle vous remercie énormément, parce que j'ai le sentiment que, dans son état, on avait plutôt tendance à la rejeter. Donc, vous êtes chrétienne. Donc, chrétienne, cette âme vous remercie pour ce que vous avez pu faire pour elle. Et dites-moi, ai-je raison de croire que vous la défendez encore? Oui. Donc,
et elle me protège, je sais pas.
Et elle vous remercie pour cela. Alors écoutez, elle vous protégera, enfin je sais pas si elle vous protège. Elle me le dit pas. Hein. Mais ne comptez pas sur elle dès lors qu'elle reviendra. Parce qu'elle n'aura pas assez de force pour réaliser ses missions de vie. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir, elle était malade, c'est ce que je comprends. Je serais très curieux de savoir si son corps, son prochain corps, reviendra malade ou pas. Parce que un corps défectueux, c'était au cerveau. Un corps défectueux. Rappelez-vous tout à l'heure chez Maggie Lebrun. Rappelez-vous tout à l'heure chez Maggie Lebrun, cet esprit qui disait, si mon corps est malade, moi je ne reviens pas. Il y a donc parfois des esprits qui choisissent de rester malgré un corps qui est malade, parce que c'est pas prévu. Hein? Et ça transforme. Et ça peut transformer un destin.
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu l'aboutissement.
Oui. J'en prie. Qui est Émilie ? Cet homme est parti il y a 2 ans. Comment s'appelait-il ? Gérard. C'était votre conjoint ? Votre père. Quel âge avait-il ?
58 ans.
58 ans. Vous souhaitez savoir s'il va bien ? Dites-moi, je vous dis ce qu'il traverse, d'accord ? On essaye de voir si ça correspond à quelque chose. Est-ce que votre père a trompé son monde ? Est-ce que dans son corps de brute, il y avait une âme toute délicate et toute fragile ? Hein ? Et votre père rit de cela. Il rit parce que, décidément, il a pu s'apercevoir à quel point les gens manquent de maturité et à quel point il manque de sincérité aussi. Votre père a un regard assez désabusé par rapport à ce qu'il a vécu sur Terre. Et il se dit que s'il revient, il cherchera à être quelqu'un de plus net, parce que son corps semble lui avoir posé problème. Comme si dans ce corps un peu trop lourd et un peu trop grand pour lui, il y avait comme s'il était mal à l'aise avec ce corps-là. Il aurait aimé être quelqu'un qu'on remarque pas, quelqu'un qui aurait simplement mené sa vie et qui n'aurait pas fait l'objet de remarques ou de colibets, ou alors qu'on n'aurait pas jugé fort parce que le corps était imposant. C'était un être donc hypersensible et qui est parti il y a 2 ans. Il est parti de quoi ? Il avait une cirrhose. La cirrhose était consécutive d'un abus de boisson.
Oui.
Est-ce que la boisson était pour lui un moyen d'échapper à cette souffrance-là ? Oui. Donc on connaît la motivation, on connaît la raison du départ. Pour autant, votre père, tel que je le perçois, est une âme de qualité. Je ne le sens pas en difficulté, je le vois dans un milieu très épuré, à vrai dire, mais il y a malgré tout quelque chose d'assez curieux autour de lui. Dites-moi, est-ce que votre père était amateur d'objets ou amateur de meubles, de ce genre de choses ? Je vois autour de lui des objets, je vois des choses auxquelles il prend soin et auxquelles il accorde de l'importance. Était-il collectionneur, par exemple ? Cela ne vous dit rien ? Vous y réfléchirez. Disons que là où il est, il s'occupe. Il prend soin. Il me paraît être quelqu'un de très minutieux. De quelqu'un qui prend soin des objets aussi et des choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui prenait soin aussi des êtres ? Avait-il cette délicatesse de faire attention aux autres ? Ou alors était-il quelqu'un qui, malheureusement, parfois, avait des accès de colère et avait tendance à dire des choses qu'il ne pensait pas. C'est quelque chose qu'il regrette profondément et il cherche à s'améliorer. Bon, pour l'instant, ça consiste pour lui à être précis sur un certain nombre d'objets. Alors je ne sais pas ce que sont ces objets exactement. Mais il fait des efforts. Hein, il fait des efforts. Est-il une épouse ?
Ouais.
Comment s'appelle-t-elle ? Diriez-vous que Paulette a essayé de lui sauver la vie plusieurs fois ?
Oui.
C'est quelque chose dont il a conscience, mais c'est quelque chose qui semble lui peser parce qu'il ne sait pas comment la récompenser. Votre mère l'aime toujours, n'est-ce pas ?
Il y a toujours quelque chose.
Oui, et elle a raison. C'est un bon bougre, malgré le fait qu'il ait vécu dans une certaine forme de souffrance et que celle-ci ait utilisé cette addiction à l'alcool, ça n'en fait pas un mauvais personnage. T'en fais certains, simplement quelqu'un qui n'a pas supporté la lourdeur de son expérience de vie, qui a trouvé ce moyen-là pour alléger son expérience. Et ça n'en fait pas un mauvais goût. Hein. Il y a combien d'enfants? Vous êtes la dernière ou pas?
Je suis la première.
Qui est la dernière? Qui est le dernier enfant?
Le dernier frère.
Comment s'appelle-t-il?
Romain.
Quel âge a-t-il, Romain?
Il a 32 ans.
D'accord. Dites-moi, votre père aurait-il des raisons de lui tirer les oreilles à Romain? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il lui tire les oreilles. Avez-vous le sentiment par rapport à Romain qu'il prend une piste qui n'est pas très favorable? Qu'il donne à sa vie une direction qui n'est pas très engageante?
Je pense plutôt que mon autre frère.
Ah, très bien. Et comment s'appelle-t-il, lui? Alors vous constatez que pour le moment, votre père ne fait que lui tirer l'oreille. Est-ce que ça signifie que votre père accepte l'idée qu'on puisse voir de temps en temps, hein? Ce serait assez intéressant, enfin, je l'espère pas, hein. Ce serait assez intéressant de vérifier le comportement de votre père si jamais votre frère dérive encore davantage. Est-ce que au lieu de l'oreille, ce sera autre chose qui tira, hein? Souhaitons pas. Vous pouvez parler de ça, votre frère? Est-ce que vous lui répéterez ce qui a été dit aujourd'hui?
Oui.
Bien.
Oui.
Votre père se sert de vous, voilà. Vous êtes Émilie?
Oui.
Et toi, éclairez-moi, est-ce que votre père vous a fait une promesse avant de mourir?
Oui.
Non? Il ne vous en a jamais parlé? Avez-vous déjà entendu votre père vous dire qu'il vous aimait?
Non.
La promesse est celle-ci. Voulez-vous que je sois son porte-parole aujourd'hui? Non, je t'aime, Émilie. Un dernier message, d'accord? Et puis Martine ira les siens et puis nous passerons à la prière. Ah. Qui est Eliane? Il s'agit d'un homme décédé de mort violente, il y a 7 mois à l'âge de 57 ans, c'est ça? Comment s'appelait-il? Vous avez mis son prénom sur la liste? Vous auriez dû, vous savez. Rien. Je le mettrai tout. Dans quelles circonstances est-il parti? Oui. C'est dommage, parce que cet homme avait du potentiel, si je puis dire. Ai-je raison de croire qu'il avait passé toute sa vie à préparer sa fin de vie, si je puis dire? Et tout ce travail pour en arriver là, tout abandonner à ce moment-là, c'est pour lui une très grande déception. Il n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. C'est de l'ordre de l'irrationnel, si je puis dire. Était-il malade? Dépressif. C'est très curieux avec votre compagnon, votre mari. Ce qui est très curieux avec votre compagnon, c'est qu'il avait tous les atouts pour réaliser quelque chose de formidable. Et puis, j'ai le sentiment que sur un coup de tête, il a donné un coup de pied dedans et tout s'est renversé. Mais avez-vous le sentiment qu'il a fait une mauvaise rencontre? Non? Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce qu'il n'en parle pas, hein? Il n'en parle pas encore. Il ne se livre pas. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'il a du mal. Il y a trop de monde. Et ça, ça l'embarrasse. C'était quelqu'un qui me paraissait non pas égoïste, mais personnel. Quelqu'un qui aimait qu'on lui foute la paix, pourvu que je fasse ce que je veux. Et il n'a pas envie de se justifier. Mais ce qui est assez intéressant dans ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il arrive à s'exprimer. Et c'est qu'il arrive à dire des choses sur sa personnalité, son caractère. À mon sens, il est parti il y a 7 mois, il s'est suicidé. Bien. Il y a des suicidés, vous savez, qui ne sont pas dans cet état avant plusieurs années. Ce qui pourrait, à mon sens, moi, signifier que lorsqu'il est passé à l'acte, il n'était pas vraiment lui-même. Alors pour quelle raison exactement? Je ne sais pas encore. Il n'en parle pas. Revenez dans quelques mois, voire même dans quelques mois, dans un an. Il est parti il y a 7 mois. Dans un an après son départ, prenez peut-être rendez-vous avec un médium pour une consultation privée. Et là, il pourra vous dire davantage. D'accord? Laissons-lui simplement un peu de temps. Et puis, la prière que nous allons lui adresser va lui, probablement lui permettre aussi de mieux se dégager, hein, de mieux respirer. Alors, se sent-il coupable de quoi que ce soit? Non. Il a été jusqu'au bout d'une logique. Et cette logique m'échappe. Hein. Est-ce que c'est un personnage qui était compliqué? Voilà. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui ne me laisse pas l'analyser correctement, qui essaye de m'échapper. En tout cas, il ne souffre pas. Pas comme vous pouvez l'imaginer. C'est quelqu'un qui doit maintenant prendre conscience de ce qui s'est passé. Et je dois vous dire, mais ça a déjà été dit, prendre conscience aussi du gâchis. Parce que ça ressemble à du gâchis quand même. Hein. Un interlocuteur vous dit que vous n'avez pas à vous sentir coupable, ni à regretter quoi que ce soit. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez été sa compagne pendant combien de temps? J'imagine assez bien que les racines de son mal-être sont antérieures à votre rencontre. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus, vraiment. Partez.
Alors, Monique, est-ce que la vie professionnelle relative à la pratique énergétique sera un succès? Tu devras travailler encore pour arriver au succès, mais tu possèdes les capacités nécessaires à cela. Je te dis de persévérer. Carole,
Christophe,
est-ce que je peux lire? Mon frère veille-t-il sur moi et ma famille, m'aide-t-il dans les moments difficiles? Oui, je suis présent près de vous tous, et je fais ce que je peux pour vous orienter. Mais ai-je vraiment des possibilités de vous mettre sur la bonne voie? Je dois dire que j'ai besoin de l'aide de vos guides. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore le niveau nécessaire pour cela, mais je vais le comprendre. Vous comprenez? Jocelyne, son guide. Christophe. Est-ce que je continuerai à travailler auprès des personnes âgées? Ce que tu donnes est l'amour et le don de soi, et cela fait partie de toi. Tu ne pourrais pas être autrement. Alors tu seras toujours dans le soin pour les autres. Je ne précise pas si c'est pour les personnes âgées, mais en tout cas toujours dans le soin. Marie-France et Daniel. Y a-t-il une vie après 70 ans? Est-ce que notre mission est faite? Sinon, aurons-nous assez d'énergie pour l'accomplir? Ou est-ce la fin de la vie et l'endormissement? Crois-tu que la vie se compte en années? Eh bien, au risque de te surprendre, je te dirai non. Bien sûr qu'il y a une vie à 70 ans, et cela jusqu'à la fin de la vie. De ta vie. Beaucoup accompliront leur destin à partir de cet âge-là. Non, ce n'est pas l'endormissement, sauf si toi, tu le veux ainsi.
La vie est un cadeau et tu dois la vivre jusqu'au bout. Tu comprends cela? Et le dernier, Marie-Jeanne à Roger. C'est très très court. Hein.
Est-ce que je peux lire?
Sandrine va-t-elle s'en sortir? Espoir est le mot. Soyez confiant et soyez patient.
Qui veut nous rejoindre pour la prière? Y avez-vous? J'adorerais qu'une quatrième personne vienne à nos côtés. Oui, c'est lui. Vous, monsieur? Non? Oui, bien sûr, prenez vos chaises.
Non, peut-être.
Mesdames et messieurs, la séance après-midi spiritualiste arrive à son terme. Il reste beaucoup de photos sur la table. Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas pu vous procurer tous les messages dont vous avez besoin. Il me semble qu'avec Martine, vous avez peut-être eu la satisfaction d'obtenir d'autres messages et d'une autre qualité. Ne soyez pas triste pour ne pas avoir obtenu de nouvelles de vos proches. Vous savez qu'ils sont là. Et tant que vous les garderez dans votre cœur, ils ne vous quitteront jamais. Simplement, je me dis quelquefois qu'il y a un moment où nous devons accepter de les laisser partir. Mais pour cela, encore faut-il que nous fassions un travail sur soi et que nous nous sentions tout à fait solides et bien amarrés sur terre pour poursuivre notre existence sans nos proches. Je vais lire cette colonne, d'accord? Nous remercions sincèrement notre Père et Mère Créateur et Créatrice de l'univers et des êtres. Et nous te remercions humblement, sincèrement, affectueusement, Père Dieu, pour avoir permis que se produise cette séance médiumnique dans ces conditions-là.
Merci d'avoir répondu
à nos appels. Et merci aussi d'avoir permis à tous nos amis d'au-delà, parmi lesquels figurent les purs esprits, les esprits supérieurs, anges gardiens et bons esprits. Merci aussi d'avoir permis à tous ces esprits-là d'avoir organisé la séance et d'avoir offert à quelques-uns d'entre eux le moyen de se communiquer à vous au sortir de cette séance. Nous souhaitons tous, incarnés et désincarnés, que vous puissiez trouver en vous toutes les ressources qui vous sont nécessaires pour profiter de la vie telle qu'elle peut se présenter à vous. Nous vous souhaitons d'être aussi heureux que possible et aussi fort que vous pouvez l'être. Si vous méritez de l'amour, obtenez cet amour. Si vous méritez le bonheur, obtenez ce bonheur. Si vous méritez de ne plus être seul, soyez accompagné dans tous les cas. Vos proches, défunts, guides et autres entités plus haut placées peuvent se rendre à votre chevet chaque fois que vous les appelez. Appelez-les avec cœur, avec humilité, appelez-les avec intelligence aussi, parce qu'au fond, les bons esprits ne se dérangent plus pour rien. Il y a de notre part la nécessité aussi de mériter leur présence et l'aide qu'ils nous apportent. Nous prions pour les personnes désincarnées suivantes. Permettez-moi en introduction, parce que nous n'en avons pas encore parlé, d'évoquer les victimes des attentats terroristes de Charlie Hebdo, Montrouge, Dammartin-en-Goële et de Porte de Vincennes. Prions sincèrement, affectueusement pour Jean Cabu, Georges Wolinski, Stéphane Charbonnier, Bernard Verlac, Philippe Honoré, Bernard Maris, Elsa Kayat, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabel, Frédéric Boisseau, Michel Renaud, Moustapha Ourad, Clarissa Jean-Philippe, et aussi les quatre otages dont les noms nous sont inconnus. Permettez-nous aussi, et sans que pour autant vous en soyez offensés, que nous adressions nos prières aux familles des terroristes qui n'en sont probablement pour rien, et adresser une prière afin que leur âme soit éclairée en direction des terroristes eux-mêmes, Amédi Koulibaly, Chérif et Saïd Kouachi. Prions encore pour la famille des Portes de l'Arche, la famille Roussel et Denis, la famille Tripet et Gobert, la famille Pébille et Maignan, pour les personnes décédées dans l'attentat du 7-1-2015. Très bien. Pour l'achat Gare et Stéphane, pour Maurice et Maurice, si je ne me trompe pas. Adressons à Dieu les personnes suivantes et souhaitons qu'ils puissent les prendre en charge. Jean-Pierre et François, Roger et Jeannette, Jean-Michel, Antoinette, Roger, ainsi que Raoul, Olga, Rose, Marie, Christophe et Mathilde. Souhaitons de tout cœur que soient soutenues les âmes des personnes suivantes, Yvonne, Jean-Marc, Robert, Albert et Olivier, Laurent, Christiane et Micheline. Soutenons très fort les âmes de René, Jocelyne, Marie, Jeanne, Marie, José, René, Lucienne, Maxime et Marie, Éric, Patrick, Petit, René Garnier, François Champeau, la famille Lotel, Christophe Herlet et enfin, de tout cœur, soutenons les personnes suivantes, Isabelle, Daniel, Christian, René, les victimes de Charlie Hebdo, Joël, Thierry, Marinetta, Robert, Jacqueline et Jean-Marie.
Isabelle et Frédéric Kraft, pour tous les aides, pour Lola, pour Mathilde, Martine, Marlène, Thomas Pifot, David Paris, Pradic, Vim, Philippe, Marielle, Daniel, Mimi, pour le respect de tous, Vincent, François et Samuel Benoît, pour la paix et la tolérance, Yvette, Vincent, Frédéric Bonneau, Franck Bonneau, Christophe Bonneau, Alain Caron, Claude Véronique Nadège.
Pour Daniel, Yvette, Isora, Kaluna, Mathy, Arnaud, Manon, Gaël, Alexandre, Valentine, Clarisse, Pierre, Hermida, Suzanne, Thomas, Clément, Mathilde, Mathieu, Pierre, Mélitini, Marie-Alexandra, Maria, Nizida, Marie, Erika.
Nous remercions nos frères et sœurs de l'au-delà d'apporter du réconfort, du soutien et de l'amour à Thérèse, Hervé, Guy, Jean-Alain, Jérôme, Sandrine, Florent, Bonin, Riadas, Siméret, Viviane, Pascal, Guy, Monique, Michel, Elisa, Brigitte, Clément, Cécile et Combe, Alain Caron, Nicole Miklusek, Marie-Françoise, Viviane, famille Martin, famille Débert, pour la paix dans le monde, Lou, Mandola Maria, pour la paix sur le monde, l'amour, la joie, la fraternité, Noémie, Olivier, Jimel, Clément, famille d'Anjou, Raka, Chloé, Jérôme, pour le règne animal, à Catherine, Guylaine, Yves et Quentin, Jean-Claude, Erad, Jeannot, Laurence, Thierry, Stéphanie, à Michel, Victor et Bianca.
Michel Bellotti, Aline, Marcel et André Padet, je crois, si j'arrive pas à lire. Robert Duvois, Gérard Benoît, Marie-Laure Buller, Maurice Chenevoix, Madeleine Champion, Mandolin Graziella, Né Urso, Fanny Raca, Fanny Guignot, Nicole Rangenbach, Sébastien Dubuc, Jacques Meunier, Alain Dubu, Jacqueline Damiette, Albert Bourzonne, François Dard, Zéphirin, Dario, Bobo, Papy Pierre, Nicole Ring, Philippe Claire, Joseph Doyon, Agnès, Fanny Slavas, Catherine, Séverine et Roland.
Mesdames et messieurs, tant que ces prénoms, ces noms sont là, ou là, ils existeront. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée, récupérez vos photographies et aimons-nous les uns les autres, surtout moi. Et vos fiches.